autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Traversez les bornes de l'espace et du temps en ma compagnie pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du fantastique. Littérature, cinéma, télévision, les médias sont nombreux, mais la vérité reste la même, ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Le fonctionnement est simple, un thème par émission, décliné à travers des œuvres différentes et repris pour quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Terriens, terriennes, l'heure est grave. Ils sont là. Ne vous avais-je pas prévenu ? Ne guettez plus le ciel. Ils sont déjà parmi nous. Ils nous envahissent. Mais les aliens, les extraterrestres, les petits hommes verts, venus de Mars ou des plus lointaines galaxies, ils arrivent. Leur vaisseau se pose dans nos villes et ils en sortent avec leur démarche étrange et effrayante. Croyez-vous qu'ils viennent pacifiquement? Croyez-vous en l'amitié qu'ils semblent vouloir vous offrir? Êtes-vous si naïf? Il semble bien que la race humaine ne soit pas encore tout à fait prête à accueillir comme il se doit ses invités venus d'ailleurs et à les raccompagner poliment mais fermement vers la sortie. Pourquoi, me direz-vous? Les aliens ne sauraient-ils faire preuve d'autre chose que d'un esprit de conquête? N'existe-t-il pas de gentils petits hommes verts? Eh bien non, nous n'évoquerons pas aujourd'hui Alf, le gentil extraterrestre ami des enfants. Selon le très sérieux magazine Alien, le journal du paranormal, des ovnis et de la science-fiction, la prétendue bienveillance des extraterrestres, portée dans les médias par le populaire projet Disclosure, n'est qu'une vitrine conçue pour dissimuler les ambitions malveillantes des aliens. Selon le magazine, le projet Disclosure serait au mieux d'une naïveté navrante, au pire, le complice d'une conjuration visant à endormir la méfiance des terriens. Les ufologues, c'est-à-dire les spécialistes des petits hommes verts, se divisent en effet en deux catégories. Les optimistes, qui pensent que les aliens sont par nature bienveillants et que nos frères de l'espace entreront bientôt en contact avec nous afin de nous aider à résoudre nos problèmes en nous apportant leur technologie. La deuxième catégorie est plus pessimiste et envisage le pire quant aux intentions des aliens à notre égard. Le professeur Michio Kaku, cité par le magazine Alien, explique en effet qu'un contact entre les extraterrestres et les humains serait comme si Bambi rencontrait Godzilla. Et Bambi, c'est nous. Si l'on en croit en effet les auteurs au programme de cette émission, dont le thème, vous l'aurez compris, est les invasions aliens, nous avons tout lieu de nous tenir sur nos gardes, car les extraterrestres ont pour nous quelques sales coups en réserve. Vous serez prévenus. Notre première invasion est littéraire. Il s'agit du roman de science-fiction écrit en 1898 par le Britannique H.G. Wells, La guerre des mondes. Le narrateur, un journaliste, raconte comment les Martiens envahissent la Terre et dévastent l'Est de l'Angleterre en usant de rayons ardents, d'armes chimiques et de tripodes. Ayant été séparé de son épouse par la catastrophe, le héros tentera de la retrouver, parcourant les décombres de la société anglaise. Face aux Martiens, les humains ne font clairement pas le poids, et certains perdront espoir, pensant que la guerre est perdue d'avance. Mais ce que les hommes ne parviennent à faire, les virus terrestres le réalisent, et les méchants Martiens finissent par mourir de maladie. Cette œuvre est une des premières à imaginer la confrontation entre les humains et une civilisation extraterrestre, et à envisager l'invasion. Elle reste également célèbre grâce à son interprétation radiophonique par Orson Welles, qui créera la panique chez les auditeurs étourdis, qui avaient oublié de regarder le programme de la radio ce jour-là et ont confondu émission théâtrale et flash info. Une autre reprise eut lieu au cinéma en 2005, avec le film « La guerre des mondes », dans lequel Steven Spielberg prendra quelques libertés avec l'œuvre originale. Si le résultat n'est pas exceptionnel et pas vraiment fidèle au livre, les effets spéciaux sont en revanche spectaculaires. Notre seconde invasion allie humour et extraterrestre. Il s'agit du roman « Martien, Go Home » de Frederick Brown, l'un des plus grands auteurs de science-fiction américain, publié chez Présence du Futur. Luc Devereaux est écrivain. Enfermé dans une cabane en plein désert, à 50 miles de Los Angeles, il cherche l'inspiration. Auteur de science-fiction, il a du mal à trouver la matière d'un nouveau roman. Et si les Martiens, se demande-t-il un soir lorsque l'on frappe à la porte. En plein désert, qui cela peut-il bien être? Rien de moins qu'un Martien, un petit homme vert d'environ 60 cm de haut, qui lui demande d'un ton impertinent « Salut Toto, c'est bien la Terre ici ?» La créature, en plus d'être franchement mal polie, a le pouvoir de se téléporter où bon lui semble, de voir à travers les murs, et rien ne peut la toucher. On passe tout bonnement à travers. Et s'il ne s'agissait que d'un Martien agaçant? Mais ils sont 1 milliard à avoir envahi la Terre. 1 milliard de petits hommes verts dont le seul but semble être de rendre fous les humains. Comment se débarrasser de tels emmerdeurs galactiques? La chose est en fait impossible. Il faudra donc apprendre aux terriens à supporter les insupportables martiens. Les psys doivent relever le défi. Une invasion rigolote en somme. Pas de destruction, pas de conquête, d'asservissement, et même pas de sonde désagréable. Pas de quoi s'inquiéter. Reste que la vie devient tout bonnement invivable, avec les Martiens sur le dos, continuellement. Pas de petits secrets, ni même d'intimité, ils ont les yeux partout. Difficile aussi de garder son sérieux et son calme quand ils débarquent en plein milieu de votre salon, à tout bout de champ, vous interrompant sans cesse et faisant leurs petits commentaires avec un vocabulaire choisi, mais pas dans le dico des bonnes manières. Tout ça, c'est plus que le pauvre Luc Devereaux ne peut en supporter. Les facéties irritantes des Martiens le conduiront jusqu'à l'asile. Quand les extraterrestres nous tapent sur le système, on craque et on dit « Martien, go home ». Toujours en provenance de Mars, qui semble constituer un réservoir d'inspiration inépuisable pour les auteurs de science-fiction, notre prochaine œuvre prend elle aussi le parti de l'humour. Oh, il y aura bien une guerre de conquête, une invasion en bonne et due forme avec fusil laser désintégrant et tout le bazar. Mais au lieu d'enfoncer nos ongles dans l'accoudoir en nous demandant si les méchants martiens seront enfin vaincus, on se marre bien en les regardant envahir Washington et Las Vegas. On aime leur look de petits hommes verts pervers, et plus encore le joli spectacle de leur crâne protubérant qui implose. Vous avez reconnu, il s'agit évidemment de Mars Attaque.
C'est quoi ce tatamar ?
La Maison Blanche passe en direct.
Mes très chers compatriotes, c'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers.
Des extraterrestres.
Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même.
Quand vous y croirez...
Les Martiens... Venez sur Terre, je vous en prie.
Quand vous aurez surmonté votre peur...
Les annihiler ! Les tuer ! Les tuer !
Il ne faut pas qu'on s'emporte.
Vous serez invités...
Ça va ? Ça t'intéresse, la Maison Blanche ?
À rencontrer une nouvelle civilisation.
Ce qui est vraiment parfait, c'est que ça marque le début d'un nouveau millénaire.
Plus puissante que toute l'armée américaine.
Tout ce que je peux te dire, c'est que la télé, ils l'auront pas.
Plus avancée que tous les cerveaux du Royaume-Uni.
Mesdames et messieurs, si c'était seulement une incompréhension culturelle.
Mais attendez-vous à quelques changements dans ce que nous connaissons et aimons.
Vous êtes Tom Jones, he had the usual.
Et nous devons apprendre... danser.
Les filles, dégagez !
Main dans la main. Jack Nicholson.
Wow. Pourquoi n'arriverait-on pas à s'entendre ?
Glenn Close.
Faut leur péter la gueule.
Pierce Brosnan.
Dites-moi, selon vous, quel genre de connaissances les Martiens nous enseigneront, professeur ?
Bien des choses sur Mars, Nathalie, j'espère.
Danny DeVito.
Pour conquérir le monde, il vous faudra des tas d'avocats.
Et Annette Bening.
Je crois qu'ils viennent pour nous sauver.
Le nouveau film de Tim Burton.
Tout le monde peut se tromper, monsieur le président.
Mars Attaque.
Là, on ne joue plus. Parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces martiens.
Réalisé par Tim Burton, dont on reconnaît bien l'humour, et sorti en 1996 aux États-Unis, ce film est une parodie des romans et films de science-fiction des années 50, et surtout une satire sociale des valeurs américaines. Tandis que les humains se divisent en optimistes naïfs, version New Age, et en pessimistes belliqueux et un tantinet vulgaire, version « vous leur pétez la gueule », les martiens, eux, envahissent la planète. Et ils ne font pas dans la dentelle. Face à l'invasion, les humains n'auront plus d'autre option que la résistance. Mais comme on est dans un film de Tim Burton et pas dans The Independence Day, les résistants n'ont rien des héros américains typiques. Et le salut de la race humaine n'est dû qu'aux choix musicaux douteux d'une vieille dame. Mais les Martiens ne sont pas les seuls que l'on ait à craindre. Bien plus loin, dans des galaxies inconnues, d'autres extraterrestres préparent leur venue. Et le film de David Towie, The Arrival, sorti en 1997, nous dévoile leurs préparatifs. Le savant Zain Zaminski, joué par Charlie Sheen, à force d'écouter l'espace en quête d'un signe de vie, finira par en trouver un, ce qui lui rapportera en fait plus d'ennui que de gloire. Le mystérieux signal qu'il a enregistré lui vaut en effet de se faire virer. Curieuse récompense. Intentiné et obsessionnel, Zain poursuivra malgré son licenciement son enquête pour découvrir la provenance du signal. Piratant les antennes satellites de tout son quartier, il parvient à installer dans son grenier une station d'écoute et il captera encore le fameux signal, mais en provenance de la Terre et en direction de l'espace cette fois. Cela ne peut signifier qu'une chose, il y a communication. Et s'ils étaient déjà là ?
Station 5.
Est-ce que ma voix te dit quelque chose, Zain ? Ne me refais pas le coup de la semaine dernière.
Écoute, si je te dis que je rentre, c'est que je rentre, point final. Il n'y a rien de plus important pour moi en ce moment.
Les petits hommes verts dans l'environnement politique actuel, ce n'est pas facile à vendre.
Je vous parle d'une vie possible hors du système solaire, et vous me virez pour ça ?
Ils font comme si rien ne s'était passé, comme si la bande n'existait pas.
Le premier signal venait de l'espace, mais celui-là vient de la Terre. Sean, il se passe quelque chose ici, qu'est-ce qu'ils veulent cacher ?
C'est un jeune homme très troublé.
Pourquoi vous leur dites des mensonges sur moi ? Rendez-moi cette bande, je veux ma bande !
Ils veulent le faire passer pour un fou.
Il y a des gens du Pentagone ici, ils fouillent nos papiers.
Je ne sais pas qui ils sont, mais ce que je sais, c'est qu'ils te mentent.
Les seuls à croire à ce qui va arriver.
S'ils ne sont pas encore là, ils ne vont pas tarder.
Qui ça, Zay ?
Ce sont ceux qui sont déjà arrivés. Charlie Sheen, Ron Silver, The Arrival.
Je vous l'avais dit, Zain, vous n'en saviez même pas la moitié.
L'enquête de Zain le conduira au Mexique, où il découvre une base secrète habitée par des extraterrestres. Ceux-ci ont conçu une machine capable de les revêtir d'une apparence humaine, grâce à laquelle ils peuvent se mêler à nous sans attirer les soupçons. L'ancien chef de Zain, celui-là même qu'il a licencié, est en fait l'un des leurs. Comme beaucoup d'autres hauts responsables, infiltrés dans les plus hautes fonctions, politiques et industrielles, avec un même objectif, monter le chauffage. Nos aliens sont en effet un peu frileux, et le climat de la Terre ne leur convient guère, plus habitués qu'ils sont à de bien plus hautes températures. Qu'à cela ne tienne, un climat, ça se modifie. Vous pensiez que le réchauffement climatique était dû à la pollution ? Que nenni, ce sont les aliens qui ont fait le coup. Mais l'enquête que mène Zain est dangereuse. À qui se fier quand chacun peut être un extraterrestre dissimulé derrière une apparence humaine ? The Second Arrival, réalisé par Kevin S. Tenney, reprend l'histoire. Zain a finalement été assassiné, par les aliens bien entendu, mais il avait su se montrer prévoyant. Avant sa mort, il a envoyé plusieurs lettres, à son demi-frère, à une journaliste, à d'anciens collègues ou à de grands savants, révélant tout ce qu'il a appris sur les terribles projets des envahisseurs aliens.
Il y a 2 ans, ils sont venus.
Il s'agit d'aliens.
Et ils ont vu.
Une technologie extraterrestre.
Aujourd'hui, ils reviennent nous conquérir. Patrick Muldoon.
Si Zane n'a pas pu éclaircir cette affaire, quelle chance avons-nous ?
Jane Seabed.
Super, le plan A. Ça donne quoi, le plan B ?
C'est de l'espèce humaine tout entière dont il s'agit.
Second Arrival.
Joués par Patrick Muldoon et Jan Tibet, les personnages principaux vont alors tenter d'empêcher la mise en service d'une nouvelle centrale nucléaire au Canada, que les extraterrestres ont prévu de faire sauter afin d'accélérer un peu le processus de réchauffement. Une mission risquée, dont l'enjeu est tout simplement la survie de l'espèce humaine. Terriens, terriennes, vous êtes bien sur Radio Saint-Afrique, la radio de la résistance face à l'invasion alien. Continue notre petite liste non exhaustive des invasions aliens avec une série culte des années 80, V, les Visiteurs. Dédiée aux résistants, passé, présent et à venir, cette série assume, dès le départ, un ton didactique et engagé. L'histoire elle-même n'est d'ailleurs pas sans rappeler la Seconde Guerre mondiale, ses invasions, ses occupations et ses persécutions. Et le petit groupe de personnages qui est au centre de l'intrigue se nomme lui-même Résistance. Réalisée par Kenneth Johnson, cette série culte de la science-fiction nous raconte comment 50 vaisseaux de 5 km de large chacun se positionnent au-dessus des principales capitales de la Terre. Les visiteurs qui en sortent ont une apparence humaine et prétendent venir en paix. Mais les apparences sont trompeuses et le journaliste Mike Donovan s'en apercevra rapidement. Monté clandestinement à bord d'un vaisseau, il découvrira que, sous le masque, se dissimulent en réalité d'affreux lézards. Il surprendra ainsi la jolie Diana, la porte-parole des extraterrestres, en train de gober une souris vivante, tout de suite moins sexy. Et les projets de ces vilaines bêtes sont encore plus terribles. Ils sont en fait venus sur Terre pour en piller les ressources, et principalement l'eau. En plus de ça, ils enlèvent des humains et les congèlent dans ce qui va vite apparaître comme un garde-manger. Tout de suite moins sympa, les copains de l'espace. Mike Donovan réunira autour de lui tout un groupe de résistants qui vont devoir à la fois communiquer pour faire entrevoir cette vérité à l'humanité et empêcher les extraterrestres de mettre en œuvre leur sordide projet. Et pour une fois, on ne tombe pas dans le piège du manichéisme dont les films et séries américains semblent s'être fait une spécialité. Parmi les lézards, certains ne cautionnent pas les agissements de leurs congénères et viennent en aide à la résistance, quitte à prendre de sérieux risques. Et parmi les humains, la résistance offre un joli visage de héros glorieux, mais rare. En phase 2, les collabos profitent de l'arrivée des extraterrestres pour s'enrichir ou monter en grade. La fronde anti-scientifique menée par les aliens, qui n'est pas sans rappeler l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale, trouve ainsi écho parmi des humains peu diplômés, peu valorisés, qui expriment dans cette chasse aux sorcières toute leur frustration et leur haine. La série a été reprise pour un remake que l'on a pu voir en France l'année dernière. Reprendre un tel monument de la science-fiction était risqué. Quand on touche à une œuvre culte, aucune erreur n'est pardonnée. Et ce remake, qui s'éloigne considérablement de l'original, sur le fond comme sur la forme, échoue à égaler le modèle. Définitivement, ma préférence revient à la série d'origine, indémodable et inégalable. We'll be right back. poursuit les invasions en série avec Torchwood. Ce spin-off du Docteur Who, c'est-à-dire pour les non-initiés, cette série créée à partir d'une autre série, est centrée sur le personnage du capitaine Jack Harkness. Jack apparaît tout d'abord dans Doctor Who. Il vient du futur et pratique l'arnaque cosmique. En 1943, en plein blitz londonien, il rencontre le Docteur et Rose, sa compagne. Ces trois-là vont partir en vadrouille dans tout l'univers à bord du TARDIS du Docteur, un vaisseau qui voyage dans le temps et dans l'espace. Au cours de leur pérégrination, ils devront affronter les Daleks, des extraterrestres malveillants et cruels. Jack sera tué dans le combat, mais Rose mettra la main dans le cœur du TARDIS et le ressuscitera. Cela aura pour effet de le rendre immortel. Jack ne vieillit plus et ressuscite à chaque fois qu'il est tué. Le personnage, toujours habillé d'un long manteau de militaire de la Seconde Guerre mondiale, très à l'aise dans une sexualité à choix multiples et adepte tout autant du bon mot que de la gâchette, aura donc droit à sa propre série, Torchwood. Torchwood, c'est le nom d'un organisme créé par la reine Victoria afin de protéger l'Empire britannique des attaques extraterrestres. Jack Harkness y travaille depuis plus d'une centaine d'années. La série commence en 2009 à Cardiff, Pays de Galles. La ville est en effet positionnée sur une faille du temps qui laisse parfois s'échapper des créatures du passé, un ptérodactyle par exemple, ou du futur, et semble attirer les extraterrestres. Avec son équipe, le capitaine Jack va donc devoir protéger Cardiff, l'Angleterre tout entière, voire la planète, de menaces aliens. Parmi ces dangers venus de l'espace qui guettent l'humanité, il y a les 456, qui débarquent avec de sordides projets à la saison 3 de Torchwood, intitulée « Les enfants de la Terre ». Dans cette troisième saison, qui marque le retour du créateur de la série, Russell T. Davis, comme scénariste, les 456, une race extraterrestre ainsi nommée en raison de la fréquence radio qu'ils utilisent pour communiquer, crée la panique sur Terre en manipulant les enfants et en parlant à travers eux. Tous les enfants de la Terre, d'où, vous l'aurez compris, le titre de la saison, s'arrêtent d'abord, comme pétrifiés, pendant plusieurs minutes. Puis, comme si rien ne s'était passé, ils reprennent leurs activités. Un peu plus tard, le phénomène se reproduit. Mais cette fois, les enfants hurlent, tous ensemble, puis transmettent un message de la part des 456. Et là, ça devient carrément flippant. Un petit extrait en VO, s'il vous plaît.
Look, I haven't got time. I've got to be in work.
Jack, get up here right now. It's happening again. The children.
They're doing it again.
Feeling okay?
All right.
We're fine. She's just playing a game.
Okay. Now, come on, sweetheart. People are staring at you. Sasha, stop it.
Thank you. What's she doing? What's that noise?
I don't know.
Sasha, stop it. Sasha, please help her.
There's another one. It's all right. It's all right. I'm a doctor.
Anglophone, We are coming signifie on va venir. Et un peu plus tard, le phénomène se reproduit encore. Cette fois, les enfants scandent We are coming back. On va revenir. Revenir ? Eh oui, car les 456 sont déjà venus sur Terre plusieurs années plus tôt. Ils avaient alors réclamé des enfants au gouvernement britannique, qui avait accepté et leur avait livré quelques orphelins tirés d'une institution écossaise. Mais cette fois, ce ne sont plus quelques enfants que veulent les aliens, mais bien des millions. Si on ne leur livre pas, l'humanité risque bien d'être décimée. Tandis que le gouvernement semble résigné à accepter et commence déjà à se demander quels enfants seront livrés et sur quels principes baser le choix qui devra être fait, Torchwood entend bien combattre jusqu'au bout. Le capitaine Jack Harkness, son compagnon Yalto Jones et leur coéquipière Gwen Cooper devront alors affronter non seulement les 456, mais aussi des agents du gouvernement qui décident de se débarrasser d'éléments qu'ils considèrent à présent comme gênants. Le mot d'ordre de Torchwood, que l'on pouvait entendre dans les génériques des saisons 1 et 2, est « Le 21e siècle est celui de tous les changements, il faut nous y préparer ». Jack, Yalto et Gwen sont prêts et ils iront jusqu'au bout pour sauver l'humanité et tous les enfants de la Terre. Comme Doctor Who, Torchwood est produit et créé par la BBC. Ces séries anglaises ont une profondeur, un humour, une subtilité et une ouverture que n'ont pas toujours leurs équivalentes américaines. Malgré tout, traversons encore une fois l'Atlantique pour aller voir de plus près une série récente qui traite de façon plutôt adroite le thème du complot extraterrestre. Cette série, c'est The Event, en français, Le Complot. Si le titre n'est pas très original, l'intrigue, elle, est plus intéressante. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, un vaisseau alien s'est écrasé en Alaska. 97 survivants sont capturés par l'armée américaine. Leur apparence est identique à la nôtre. Leur ADN ne diffère que de 1% de celui de l'homme. Mais au fil du temps, l'armée s'apercevra que les aliens ne vieillissent pas, ou en tout cas, pas au même rythme que nous. Depuis les années 40, les prisonniers n'ont en effet pas pris un cheveu blanc. Mais de tout cela, l'humanité n'en sait rien. Et les prisonniers sont gardés dans un complexe secret bâti à Inostranka, en Alaska. Quand le nouveau président américain, Elias Martinez, apprend leur existence, peu de temps après son entrée en fonction, il décide d'en finir avec ce secret d'État et de libérer les prisonniers. Mais tandis qu'il s'apprête à donner la conférence de presse durant laquelle il veut tout révéler au public, un attentat le vise et le manque de peu. En fait, l'avion, détourné, qui est censé s'écraser sur sa propriété, est téléporté à plusieurs centaines de kilomètres. Qui a planifié l'attentat ? Qui a téléporté l'avion, évitant de justesse la collision, et pourquoi ? C'est bien entendu les questions que le président se pose. Il découvrira, et le spectateur avec lui, que les 97 d'Inostranka ne sont pas les seuls à avoir survécu au crash. Beaucoup d'autres ont pu s'enfuir avant l'arrivée de l'armée et se sont fondus dans la population. Qui est humain ? Qui est extraterrestre ? Le complot est-il celui des aliens infiltrés ou bien celui d'humains, opposants du président, parmi lesquels certains de ses proches collaborateurs, dont les ambitions restent encore mystérieuses ? Quel est le lien avec l'enlèvement de Laila Buchanan, une jeune touriste pendant sa croisière aux Caraïbes ? Pourquoi son fiancé, Sean Walker, est-il accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et traqué par des tueurs à gages ? Cette série, qui est annoncée par son créateur, Nick Waters, comme un mélange de 24 heures chrono et de Lost, réussit plutôt bien son pari, alliant le rythme trépidant et l'intrigue politique de la première au mystère de la seconde. Passons à présent à notre rubrique consacrée au cinéma pour jouvencelles, aux navets manichéens et bien-pensants, aux accents patriotiques mielleux, le film De Pucelle. Et ce mois-ci, notre film De Pucelle est une série, The Falling Sky. Les extraterrestres ont débarqué et les humains doivent s'unir pour résister à l'invasion. Une intrigue pas forcément très originale, mais qui marche toujours, comme en témoigne le succès de cette série. Alors pourquoi l'avoir choisi comme film de pucelle, me direz-vous ? L'histoire est sympa. Tom Mason, le personnage principal, est un prof d'histoire qui n'a rien du héros bodybuildé, du genre ancien Marines, que l'on pourrait attendre ici. En fait, sur le fond, cette série est plutôt chouette, tenant le spectateur en haleine, sortant même du schéma pourtant courant dans les films et séries aux États-Unis, du gentil-gentil contre le méchant-méchant. Non, si j'ai choisi The Falling Sky comme film de pucelle, c'est à cause de son ton pleurnichard, bien pensant et patriotique jusqu'à la nausée. J'exagère peut-être ? Je vous laisse en juger.
J'étais à l'école quand les vaisseaux sont arrivés.
Ils étaient énormes. Le président avait dit de ne pas les attaquer avec nos bombes nucléaires parce que les aliens voulaient être sûrement amis avec nous.
Mais ils voulaient pas être amis avec nous. Pas du tout. Et puis il y a eu une sorte de gros éclair et des tas de trucs sont tombés en panne.
Les ordinateurs.
Les radios. Les satellites,
les voitures,
les télés, plus rien ne marchait. Ils ont fait exploser nos bases militaires,
nos bateaux, nos avions,
nos sous-marins aussi, et tous nos soldats sont partis au ciel.
Nos papas et nos mamans ont été obligés de se battre.
Pour les punir, les aliens ont détruit plein de villes.
New York,
Washington, Paris, et toutes les capitales du monde. Et après, les aliens sont sortis de leur vaisseau.
Ils étaient des millions,
des milliards.
Il y en avait partout.
On les appelle les rampants et les mécas.
Ils tuent les grandes personnes et font prisonnier les enfants.
Ils leur mettent quelque chose dans la tête et dans le dos.
Un truc gluant pour contrôler leur cerveau.
Il paraît que ça fait très mal.
Un jour, mes parents sont partis chercher de l'aide. Ils sont jamais revenus. Je suis sûre qu'ils sont morts.
Pleure, ma chérie. Pleure. C'est bien de dire ce que t'as sur le cœur. Ça soulage. Et toi, Matt, qu'est-ce que t'as dessiné ?
Ma maman, elle était partie chercher de la nourriture, mais comme elle revenait pas à la maison, on est parti à sa recherche. On l'a retrouvée morte. Ensuite, mon père a dit qu'il fallait qu'on parte vite de chez nous. Ben est allé voir Nick chez lui. On suppose que les rampants l'ont tué. Mais on n'en est pas sûr.
Et ce dessin, il représente quoi ?
C'est moi, papa, et là, c'est Al.
Sois pas triste. Ton papa et ton frère Al sont en bonne santé.
Ben, tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient partis ce matin. Mais je sais pas s'ils vont bien en ce moment. Ils combattent cette nuit.
Ils combattent, en effet, sous le drapeau de la 2e division du Massachusetts, au nom des États-Unis d'Amérique, n'oubliant jamais de réciter leurs prières avant de manger et de mettre la main sur le cœur et de chanter l'hymne américain quand l'un des leurs est enterré avec tous les honneurs. Bien entendu, il est mort en héros, se sacrifiant pour sauver son fils, et l'on pliera le drapeau américain lors de ses funérailles dans la plus pure tradition martiale. Alors bien sûr, je l'ai regardée, cette série. Je l'ai même appréciée pour ce qu'elle était, un divertissement sympathique. Mais lorsque le héros, Tom Mason, pousse le gnangnang jusqu'à prétendre que l'invasion extraterrestre l'a rendu meilleur, et qu'il faut, face à l'ennemi, se montrer noble, faire ressortir ce qu'il y a de bon en nous, là, j'avoue, j'ai fait la grimace. Quant au gamin de 13 ans qui s'enrôle dans l'armée pour défendre son pays et qui, du haut de sa puberté non terminée, nous fait un salut militaire, là, je m'enfuis en courant. Définitivement, The Falling Sky est une série de pucelles. Et pour terminer cette émission dédiée à nos ennemis les aliens, quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Les aliens sont-ils déjà parmi nous ? Quels projets ont-ils pour notre planète ? Comment leur faire face ? Je sais que j'ai déjà dit ça dans les précédentes émissions, mais que voulez-vous ? C'est une constante. Il va falloir se battre. Premier conseil de bon sens, votre maman vous avait bien recommandé, enfant, de ne jamais suivre d'inconnus, même s'il vous proposait des bonbons. Appliquez cette prudence également en ce qui concerne les êtres venus d'ailleurs, même s'ils nous ressemblent, même s'ils disent venir en paix. Si malgré tout votre goût pour l'aventure vous pousse à les suivre, prenez quelques précautions. S'ils vous convient à manger, vérifiez qu'il s'agit bien de partager un repas et non d'en être le plat principal. Et s'il vous propose la botte, mettez des capotes, à moins que vous ne vouliez mettre au monde un alien vert gluant. Quant aux sceptiques qui ne croient pas en l'existence des petits hommes verts, méfiez-vous, car ils pourraient déjà être parmi nous. deuxième conseil, mettez-vous aux sciences. Il va falloir combattre, certes, mais que croyez-vous pouvoir faire face à la technologie des aliens ? Devant leur laser désintégrant, vos prises de judo ou votre fusil de chasse ne serviront pas à grand-chose. Dans beaucoup des œuvres que nous avons parcourues aujourd'hui, c'est la science qui résout le problème alien. Révisez donc vos cours de SVT, ça pourrait vous servir un jour si vous devez disséquer un petit homme vert. Ou si vous en avez un qui grandit à l'intérieur de vous. Et pour terminer, une remarque plutôt qu'un conseil. Les aliens les plus effrayants que j'ai pu voir n'étaient pas les monstres gluants à tentacules. Même la gueule pleine de dents et de bave acide de la créature des films Alien n'est pas si terrifiante. Non. Les extraterrestres qui nous font le plus peur sont ceux qui nous ressemblent. De The Arrival à The Event, en passant par V, les visiteurs, les envahisseurs ont parfois forme humaine, que ce soit naturellement ou artificiellement. Ainsi, mon voisin, mon collègue de travail, mon conjoint, pourraient être des aliens. Et oui, la menace intérieure est toujours plus effrayante que celle venue de l'extérieur, car plus sournoise, plus pernicieuse. Mais je me permettrai une interprétation de ce phénomène. Si nous voyons beaucoup de films et séries mettre en scène des extraterrestres à forme humaine, ce n'est pas seulement par économie de maquillage. Selon moi, derrière la peur des petits hommes verts, se cache une autre peur, moins fantastique et plus réaliste, la peur de l'homme. Donner à nos aliens un visage humain, c'est mettre un petit peu à jour cette crainte de l'autre qui me ressemble tant sans être moi-même. Alien, d'ailleurs, terme latin que nous avons abondamment utilisé aujourd'hui, ne signifie pas extraterrestre, mais étranger. Des invasions aliens aux invasions barbares, il n'y a donc qu'un pas. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à aller retrouver nos références sur le site de la radio à la page de l'heure fantastique. On se retrouve au mois de juin pour un petit voyage vers les univers parallèles. En attendant, ouvrez l'œil, car vous le savez bien, ils sont parmi nous.